Chers auditeurs et auditrices, nous continuons la série concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 44 et le titre de notre étude, ce sera la victoire devant la mort. L'expérience de la victoire sur la mort n'est pas rare parmi les saints d'autrefois. Elle n'était vraiment pas rare du tout, car par le sang de l'agneau, les Israélites ont été protégés de l'ange de la mort qui frappa les premiers-nés de l'Égypte. Au nom du Seigneur, David a été protégé de la griffe du lion et de la patte de l'ours, ainsi que de la main du fameux Goliath, en jetant de la farine dans le pot. Élisée, le prophète, en a fait sortir la mort. Lisez attentivement 2 Rois, chapitre 4, verset 38 jusqu'au verset 41. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont subi aucun mal dans la fournaise ardente. Notez Daniel chapitre 3, versets 16 à 26. Daniel témoigna que Dieu avait fermé la gueule des lions quand il fut jeté dans leur fosse. Saint Paul secoua dans le feu une vipère qui était armée pour la mort et il n'a subi aucun mal. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 3 à 5. Hénoc et Élie ont été tous les deux enlevés au ciel sans goûter la mort, un exemple parfait de la victoire sur la mort. C'est le but de Dieu d'amener ses enfants maintenant à l'expérience d'un triomphe sur la mort. Triompher du péché, de la vie propre, du monde, de Satan, c'est nécessaire. Mais la victoire n'est pas complète sans un triomphe correspondant sur la mort. Or, si nous désirons jouir d'une complète victoire, nous devons détruire ce dernier ennemi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Nous laisserons subsister un ennemi si nous n'expérimentons pas le triomphe de la mort. Nous ne devons jamais oublier que la mort est dans la nature, la mort est en nous, et la mort vient de Satan. La terre est sous une malédiction. Elle est donc subordonnée à cette malédiction. Si nous voulons avoir une vie de victoire sur cette terre, nous aurons à surmonter la mort qui est dans le monde. La mort est dans notre corps. Elle a commencé son œuvre en nous le jour de notre naissance, car lequel d'entre nous, ce jour-là, n'a pas commencé son pèlerinage vers la tombe, que nous le voulons ou pas. La mort est déjà en nous et nous dévore impitoyablement. L'abandon de notre tente terrestre n'est que la crise de consommation d'une œuvre de mort qui s'est prolongée. La mort, elle peut frapper notre esprit, le privant de vie et de puissance. Elle peut frapper notre âme, paralysant notre sensibilité, notre pensée et notre volonté. Ou elle peut frapper notre corps, le rendant faible et malade. Je répète parce que c'est important. La mort, elle peut frapper notre esprit, le privant de vie et de puissance. Elle peut frapper notre âme, paralysant notre sensibilité, notre pensée et notre volonté, ou elle peut frapper notre corps, le rendant faible et malade. En lisant le chapitre 5 des Romains, nous constatons que la mort a régné, verset 17 du chapitre 5 des Romains. La mort ne se contente pas d'exister, elle règne. Elle règne dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Notre corps est encore vivant, mais la mort a déjà commencé à régner en lui, que vous le croyez ou pas, quoique son influence n'ait pas encore atteint son apogée, elle n'en règne pas moins et pousse ses frontières de manière à étreindre tout le corps. Différents symptômes que nous découvrons en nous démontrent jusqu'à quel point sa puissance est sur nous. Et ces symptômes conduisent chacun à cette ultime déchéance qui est la mort physique. Mais attention, s'il y a un règne de la mort, écoutez bien cela, il y a aussi le règne de la vie, Romains chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul nous assure que tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. Ça, c'est une force qui dépasse de beaucoup la puissance de la mort. Le fait est que les chrétiens d'aujourd'hui ont été si occupés par le problème du péché que le problème de la mort est resté virtuellement oublié. Si important que soit le triomphe sur le péché, le triomphe sur la mort, qui est un problème corrélatif, ne doit pas être négligé. Nous savons que les chapitres 5 à 8 des Romains traitent à fond la question de la victoire sur le péché, mais ils traitent avec autant d'à-propos le problème de la mort. Par exemple, le salaire du péché, c'est la mort, nous est-il dit dans Romains chapitre 6 verset 23. L'apôtre Paul parle de la conséquence du péché aussi bien que du péché lui-même. Il ne met pas seulement en opposition la justice et les transgressions, mais il compare aussi la vie et la mort. Les chrétiens, en grand nombre, soulignent la nécessité de surmonter les différentes manifestations du péché dans leur caractère et dans leur vie, mais ils ne disent rien de la manière de surmonter le résultat du péché qui est la mort. Cependant, Dieu se sert de l'apôtre dans ces deux chapitres pour discuter non pas tellement des manifestations du péché, mais bien plutôt de son aboutissement qui est la mort. Il nous faut voir clairement la relation qu'il y a entre ces deux éléments. Christ est mort pour nous sauver non seulement de nos péchés, mais aussi de la mort. Dieu nous appelle maintenant à les surmonter tous les deux. En tant que pécheurs, nous étions morts dans nos péchés, car le péché et la mort ont régné sur nous, mais le Seigneur Jésus, par sa mort pour nous, a aboli notre péché et il a englouti la mort. La mort a d'abord régné dans notre corps, mais en nous identifiant avec sa mort, c'est-à-dire avec la mort de Jésus-Christ, nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu. Chapitre 6, verset 11. À cause de notre union avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, sur nous, et ne peut plus nous tenir dans ses liens. Chapitre 6, verset 9 et 11. Le salut de Christ remplace le péché, premièrement par la justice, et deuxièmement par la mort pour la vie. J'ai bien dit, par la mort pour la vie. Puisque le principe objectif de l'apôtre dans ce passage est de traiter du péché et de la mort, notre acceptation ne peut pas être complète si nous n'absorbons que la moitié du sujet. Voici dans quels termes saint Paul décrit le plein salut en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chapitre 8, verset 2. Admettons que nous avons une riche expérience de la victoire sur le péché, mais quelle expérience avons-nous de la victoire sur la mort? Je vous le demande. Chers amis, ne devons-nous pas confesser que la mort agit dans notre corps avec plus de puissance que la vie? Nous devrions vouer autant d'attention que Dieu en offre lui-même. Il offre lui-même un combat au péché et à la mort. Nous devons donc triompher de la mort aussi bien que du péché, et non pas l'un sans l'autre. Il en est de la mort comme du péché, c'est un fait que Christ a condamné le péché dans la chair, en sorte que les chrétiens n'ont pas besoin de pécher, mais qu'ils peuvent encore pécher, de même puisque Christ a vaincu la mort. Les croyants n'ont pas besoin de mourir, bien qu'ils puissent encore mourir. Donc, si le chrétien se donne comme but de ne pas pécher, alors ne pas mourir devrait aussi être son but. Comme sa relation avec le péché est régie par la mort et la résurrection de Christ, sa relation avec la mort devrait également être régie par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, il nous appelle à triompher expérimentalement et du péché et de la mort. Nous nous imaginons habituellement que puisque Christ a vaincu la mort pour nous, nous n'avons pas besoin de nous en occuper davantage. Comment alors pouvons-nous exprimer la victoire du Seigneur expérimentalement? Notre victoire, bien sûr, n'a aucun fondement en dehors de la victoire du calvaire. Mais ne pas se prévaloir de ce que le calvaire a accompli n'est certainement pas pour nous le chemin de la victoire, je répète, de ne pas se prévaloir de ce que le calvaire a accompli, n'est certainement pas pour nous le chemin de la victoire. Nous ne triomphons pas du péché en restant simplement passifs, et nous ne pouvons pas non plus triompher de la mort en nous désintéressant de sa présence. Dieu désire nous voir prendre cette question au sérieux, c'est-à-dire que par la mort de Christ, nous surmontons vraiment la puissance de la mort dans notre corps. Jusqu'ici, nous avons surmonté bien des tentations, nous avons aussi triomphé de la chair, du monde et de Satan. Il nous appartient maintenant de nous dresser pour vaincre la puissance du dernier ennemi. Si nous sommes résolus à résister à la mort autant que nous avons résisté au péché, notre attitude vis-à-vis de la mort changera du tout au tout. L'humanité est en marche vers la tombe, et parce que la mort est le sort commun à toute la race déchue, nous sommes naturellement portés à adopter une attitude résignée. Nous n'avons pas appris à nous, si vous voulez, à nous conformer vraiment à la victoire qui est donnée par Jésus-Christ. Car pour triompher de la mort, les croyants doivent modifier leur attitude devant elle, et cela en passant de la résignation à la résistance. Il ne faut pas être dans la résignation tout simplement en se disant il n'y a rien à faire. Mais nous devons au contraire résister. Si nous ne résistons pas à notre disposition passive à son égard, eh bien il nous sera impossible d'en avoir raison. Elle se moquera de nous et nous aurons une fin prématurée. Et de nombreux chrétiens aujourd'hui s'imaginent que la passivité, c'est vraiment la foi. Eh bien non. S'ils doivent mourir, alors, sans aucun doute, il permettra qu'ils meurent et que la volonté de Dieu soit faite ainsi. Amen. Non, il ne faut pas rester résigné. Cette manière de voir paraît juste, mais est-ce vraiment de la foi, je vous le demande? Il me semble pas du tout. Ce n'est qu'une paresseuse passivité. Quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, il est juste de le faire, cette prière, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Saint Luc chapitre 22, verset 42. Mais cela ne nous dispense pas de prier spécifiquement en faisant connaître à Dieu l'objet de nos requêtes. Nous ne devons pas nous soumettre passivement à la mort, car Dieu, il nous invite à collaborer activement avec sa volonté. À moins que nous ne sachions positivement que Dieu veut que nous devons mourir, nous ne devons pas laisser nonchalamment la mort nous oppresser. Nous devons collaborer activement avec Dieu et cela pour lui résister à la mort. Pourquoi nous convient-il de prendre une telle attitude? Eh bien, la Bible traite la mort comme étant notre ennemi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Par conséquent, nous devons résolument nous opposer à elle et la subjuguer. Puisque le Seigneur Jésus sur la terre a fait face à la mort et en a triomphé pour nous, il attend de nous personnellement dans cette vie que nous en triomphions. Nous ne devons pas demander à Dieu de nous donner la force pour aller au-devant de la mort, mais nous devons lui demander la force nécessaire pour assujettir sa puissance. Comme la mort est venue par le péché, notre victoire sur la mort est venue par l'œuvre du Seigneur Jésus qui est mort pour nous et nous a sauvés du péché. Son œuvre rédemptrice est étroitement liée à la mort. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 15. C'est la croix qui est le fondement de la victoire sur la puissance de la mort. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Trois chemins différents sont ouverts aux chrétiens pour triompher de la mort. Primo, en croyant que nous ne mourrons pas avant que notre œuvre ne soit terminée. Secondo, en n'ayant d'elle aucune crainte si elle devait nous atteindre, sachant qu'elle a perdu son aiguillon. Et tierso, en croyant que nous serons complètement délivrés de la mort, puisque nous serons enlevés au retour du Seigneur. Considérons l'une après l'autre ces trois possibilités. Premièrement, nous ne mourrons pas avant que notre œuvre est achevée. Par exemple, si une femme qui a 50 ans, elle est mariée, elle a un gentil mari, elle est atteinte du cancer, eh bien, elle n'a pas terminé sa tâche ici-bas. C'est Satan qui veut l'éliminer pour qu'elle ne puisse pas amener son mari à la pleine croyance dans les possibilités qui sont des possibilités qui nous dépassent, mais qui sont du Seigneur pour nous venir en aide et pour nous aider à triompher. À moins qu'un chrétien n'a pas la certitude que son œuvre est terminée et que le Seigneur n'a plus besoin de ses services sur la terre, elle doit résister à la mort par tous les moyens. Si les symptômes de mort se sont déjà manifestés dans son corps avant que son œuvre soit terminée, il ou elle doit leur opposer une résistance positive. Il doit croire que le Seigneur, puisqu'il a encore du travail pour lui ou pour elle, va prendre en main ce qui occasionne cette résistance. C'est pourquoi, tant que nous n'avons pas mené à bonne fin la tâche qui nous est dévolue, nous pouvons être tranquilles et nous confier dans le Seigneur pour notre vie, même en face de signes physiques dangereux. En collaborant avec lui en Jésus-Christ, donc en collaborant avec Jésus-Christ, par notre opposition, nous le verrons bientôt en train de l'engloutir dans sa vie. Comprenez-vous cela? Dans l'expérience de l'apôtre Paul, nous sommes témoins d'une semblable résistance à la mort. Les puissances de ténèbres ont fait ce qu'elles pouvaient pour faire mourir avant son heure. Mais, il a déjoué chaque fois leur dessein. Prisonnier à Rome, plus tard, avec peut-être la mort devant lui, il a fait cette confession, notez Philippiens chapitre 1, versets 22 à 25, il est dit « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive encore dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Et cela pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Philippiens chapitre 1, versets 22 à 25. Ce n'est pas qu'il ait eu peur de mourir, mais son œuvre n'était pas achevée, et il savait par la foi en Dieu qu'il ne mourrait pas encore. Ce fut sa victoire sur la mort. Et vers la fin, quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », il sait que cette fois l'heure a sonné pour lui. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 et le verset 6. Donc le verset 6 et le verset 7 de 2 Timothée chapitre 4. Avant que notre course ne soit pleinement achevée, nous ne devons pas mourir. L'apôtre Pierre aussi, il connaissait le moment de son départ à propos de la tente de son corps. Il a déclaré « Je sais que je la quitterai bientôt, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 14. En lisant l'Ancien Testament, nous constatons que tous les patriarches sont morts, âgés et rassasiés de jours. Genèse, chapitre 25, verset 8. Que signifie cette phrase? Elle signifie qu'ils ont vécu le total des jours que Dieu leur avait destinés. Dieu nous fixe à chacun le temps que nous avons à vivre. Saint Jean, chapitre 21. Si nous n'atteignons pas l'âge ainsi déterminé, nous n'avons pas vaincu la mort. Comment pouvons-nous savoir la mesure qui nous est allouée? La Bible nous offre un critère général. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Psaume chapitre 90, verset 10. Nous ne prétendons pas que nous devrions tous vivre au moins 70 ans. Nous ne pouvons pas empiéter ainsi sur la souveraineté de Dieu. Mais si nous ne disposons d'aucune indication dans le sens restrictif, alors acceptons ce chiffre comme étant normal et opposons-nous à tout départ anticipé, fondé sur la parole de Dieu. Nous aurons la victoire personnellement avec mes 87 ans. Bientôt, je devrais déjà être au cimetière. Deuxièmement, nous ne devons pas craindre la mort. En parlant de la victoire sur la mort, nous ne voulons pas laisser entendre que nos corps ne mourront jamais. Bien que nous croyons que nous ne mourrons pas tous, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, dire que nous ne mourrons pas, ça c'est de la superstition. Puisque la Bible parle de 70 ans comme étant la durée habituelle de la vie humaine en général, nous pouvons espérer vivre jusqu'à cet âge si nous avons la foi. Mais bien que le Seigneur soit notre vie, nous ne pouvons pas en tirer argument pour espérer de vivre pour toujours. L'apôtre Paul, il avait réalisé la victoire sur la mort et il a rendu ce témoignage. La mort, elle met un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Philippiens, chapitre 1, versets 21 et 23. Il n'y a pas là l'ombre d'une appréhension. La victoire sur la mort est réelle et complète. Et troisièmement, enlevé vivant. Voyons cela de plus près. Nous savons qu'au retour du Seigneur Jésus, beaucoup seront enlevés vivants. C'est là la dernière manière de triompher de la mort. L'événement est traité dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 17. Nous nous rendons compte qu'il ne nous ait fixé aucune date pour ce retour du Seigneur. Il aurait pu avoir lieu n'importe quand au cours de ces 10 dernières années. Les chrétiens pouvaient donc en tout temps mourir, l'espoir d'être enlevé sans passer par la mort. Comme on admet que ce retour est beaucoup plus proche que on n'a pu l'envisager jusqu'ici, notre espoir d'être enlevé vivant est plus grand qu'il ne l'était pour nos prédécesseurs. Nous ne voulons donc pas en dire davantage, sauf pour ce que nous croyons pouvoir affirmer en toute sécurité, c'est que si le Seigneur devait revenir à notre époque, nous aimerions être encore là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et de manière à pouvoir être enlevé vivant. Dans cette perspective, il nous appartient donc de triompher de la mort maintenant et de ne pas nous laisser mourir avant notre heure. D'après les prophéties de l'Écriture sainte, certains croyants seront enlevés sans passer par la mort. Être enlevé de cette façon constitue une nouvelle manière de vaincre la mort. Tant que nous sommes en vie sur la terre, il est indéniable que nous pouvons être de ceux qui seront enlevés. Ne devons-nous donc pas nous préparer à remporter ce triomphe-là sur la mort, qui est le triomphe le plus complet? Oui, donc, quand nous faisons la Sainte Cène, eh bien, quand nous avons mangé sa chair et que nous avons bu son sang qui représente la vie éternelle et qu'il l'a ressuscité, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ au dernier jour, selon Jean, chapitre 6, verset 54. Or, d'autre part, dans la même circonstance, il a aussi eu cette affirmation, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. » Quand nous prenons la Sainte Communion, la Sainte Cène. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Car celui qui mange ce pain vivra éternellement. Chapitre 6, verset 58 de Saint Jean. Ce que le Seigneur veut dire dans ces deux passages, c'est que parmi ceux qui croient en lui, les uns mourront et seront ressuscités, tandis que d'autres ne passeront pas du tout par la mort. Et lors de la mort de Lazare, voici comment il s'est exprimé. Il a dit, « Je sais une chose, je suis moi, Jésus-Christ, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Saint Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Ici, le Seigneur n'est pas seulement la résurrection, mais il est aussi la vie. Cependant, la plupart d'entre nous, la plupart croient en lui comme étant la résurrection, mais ils oublient qu'il est aussi la vie. Nous sommes prêts à admettre qu'il nous ressuscitera quand nous serons morts, mais reconnaissons-nous également qu'il est notre vie, il est aussi capable de nous garder vivants, si c'est dans sa volonté pour terminer la tâche que nous avons à accomplir. Il nous explique deux sortes d'activités qu'il va déployer, mais nous ne croyons que à l'une de ces deux activités. De nombreux croyants, au cours de ces 21 siècles, auront expérimenté la parole du Seigneur, que celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. D'autres feront dans l'avenir l'heureuse expérience de cette autre parole qui dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Des milliers et des milliers de croyants sont déjà partis dans la foi. Mais Dieu dit que certains ne mourront jamais. Nous n'avons donc aucune raison de prétendre que nous devons d'abord mourir pour ressusciter ensuite. Puisque la venue du Seigneur Jésus est proche, pourquoi faudrait-il mourir avant et attendre la résurrection? Pourquoi ne pas nous attendre à ce que le Seigneur vienne et nous enlève pour que nous soyons ainsi totalement délivrés de la puissance de la mort? Le Seigneur indique qu'il sera la résurrection pour beaucoup, mais aussi la vie pour un certain nombre. Si merveilleux que cela soit de ressusciter des morts, comme ce fut l'expérience de Lazare, eh bien là n'est pas nécessairement la suprême victoire sur la mort. Le Seigneur dispose d'une autre méthode, c'est de ne jamais mourir. Nous sommes destinés à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, Dieu a établi un pont flottant pour nous permettre d'aller directement au ciel. Ce pont flottant, c'est l'enlèvement. En anglais, the rapture. Donc, le moment de l'enlèvement approche. Si quelqu'un désire être enlevé vivant, il faut qu'il apprenne ici et maintenant à triompher de la mort. Avant l'enlèvement, le dernier ennemi doit être vaincu. Sur la croix, le Seigneur Jésus en a complètement triomphé. Aujourd'hui, Dieu tient à ce que l'Église fasse elle-même l'expérience de cette victoire de Christ. Nous avons tous le sentiment que nous vivons au temps de la fin. Le Saint-Esprit est en train de nous conduire à engager la dernière bataille avant le moment suprême. Réalisant que ces jours sont comptés, Satan fait l'impossible pour tenir en échec l'enlèvement des chrétiens. C'est ce qui explique en partie pourquoi les enfants de Dieu subissent aujourd'hui de ces cruels, oui, vraiment des cruels assauts dans leur corps par toutes sortes de maladies, le cancer, etc. La victoire de ces attaques leur donne l'impression qu'ils subissent une atmosphère de mort jusque dans l'air qu'ils respirent, pour leur faire abandonner, si c'était possible, tout espoir d'être enlevés vivants. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est là que la suprême tentative de l'ennemi pour tenir en échec l'issue divine. Le diable est un menteur et un meurtrier. Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Ce qu'il cherche, c'est de nous tuer. Il a une tactique particulière pour les derniers jours, c'est d'opprimer les saints. Daniel, chapitre 7, verset 25. S'il peut ajouter une petite dose d'anxiété dans l'esprit du croyant pour augmenter de rien l'agitation de sa pensée et pour lui faire perdre même le sommeil, pour le provoquer aujourd'hui, peut-être à un jeûne intempestif où il ne tiendra peut-être pas le coup, demain, peut-être à un excès alimentaire ou à une activité totalement déraisonnable. Alors là, il aura préparé des voies d'accès à la puissance de la mort. Une goutte d'eau est impuissante, mais si l'eau dégoutte assez longtemps, eh bien, elle peut faire un trou même dans un rocher. Satan est assez au courant de cette loi pour provoquer ici des ennuis assez conséquents. C'est ce que j'aurais voulu dire. Donc je répète, Satan est très au courant de cette loi-là pour provoquer ici différents ennuis. Et là, par exemple, un accès d'inquiétude, et ailleurs encore, une fâcheuse négligence. Oh, l'ennemi, il n'en faut pas davantage à lui, à l'ennemi, pour abattre même un chrétien fervent. Le Seigneur Jésus revient bientôt. L'heure est venue de déclarer à la mort une guerre totale. Nous devons nous battre. Comme nous luttons contre le péché, c'est un fait. Nous luttons contre le monde et contre Satan. Eh bien, nous devons également lutter contre la mort. Il ne suffit donc pas de demander la victoire, il faut prendre la victoire. Si nous pouvons ou nous pouvions, à la lumière de Dieu, regarder un peu en arrière, nous pourrions peut-être compter le nombre de fois que nous avons été attaqués par la mort. À force d'attribuer les événements à d'autres causes, nous voyons très bien s'effriter notre force de résistance. Si nous avions plus de discernement, Dieu nous fortifierait pour nous accorder une victoire plus éclatante. Nous aurions l'impression de passer par-dessus des ponts démolis, à passer par-dessus des sentiers effondrés, comme si tout notre environnement se liguait en vain contre nous. Mais nous ne voulons pas mourir. Plus d'une fois, nous avons désespéré de la vie et constaté qu'en réalité, nous ne pouvions pas mourir malgré la furieuse escalade de l'adversaire. Quelque chose en nous refusait l'issue fatale. Je parle surtout pour ceux qui ont moins de 60 ans. Que signifie-t-elle, cette sorte d'expérience? Simplement ceci. Dieu nous conduit à notre dernière bataille avec la mort. Ces assauts sont conçus uniquement pour nous frustrer de l'enlèvement. L'angoisse de l'esprit et la tristesse de l'âme, l'angoisse de l'esprit et la tristesse de l'âme peuvent nous conduire à notre fin tout aussi bien qu'une déchéance de notre être physique. Dieu nous appelle donc maintenant à l'enlèvement et nous devons maîtriser tout ce qui s'y oppose. Je parle surtout de ceux qui ont moins de 60 ans. Pour les personnes comme moi, on s'attend, on peut s'attendre à la mort à n'importe quel moment. Mais pour ceux qui ont moins de 60 ans, à mon avis, ça vaut la peine de prier intensivement pour quelqu'un qui a encore une tâche à accomplir ici-bas. Des esprits meurtriers sont à l'œuvre partout. Et si les chrétiens restent passifs, ils tomberont sous leur coup. Mais si vous priez victoire sur la mort, Seigneur, donne-la-moi cette victoire, il vous répondra, si tu résistes à la mort, je te donnerai la victoire. Vous avez bien compris que quelqu'un comme moi, qui a près de 87 ans, eh bien, on ne peut pas mener la même bataille, car on sait très bien que notre temps est plus ou moins écoulé. Mais la prière, à elle seule, elle est futile si la volonté reste passive. Si vous avez les bras ballants, si vous n'avez plus aucun courage, ni aucune motivation, ce sera difficile. Comme dans les autres domaines, l'enlèvement exige la collaboration de l'Église avec Dieu. La foi ne laisse jamais les choses prendre la ligne de moindre résistance. Gardons-nous donc de chercher du réconfort dans la pensée que nous serons de toute façon enlevés. Si notre foi n'est qu'une formule simplement mentale qui nous permet de déserter notre responsabilité, comment échapperons-nous à ce dernier ennemi qui nous attend? Il est vrai qu'il existe le péché mortel, ça c'est vrai, car la Bible elle mentionne une sorte de péché mortel. Elle parle du péché qui conduit à la mort et lequel peut être commis par n'importe quel croyant. Selon la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 16. Il ne s'agit donc pas ici de mort spirituelle, car voyez-vous, la vie éternelle de Dieu, elle ne peut pas être éteinte. Il ne peut pas y avoir non plus une allusion à la seconde mort, puisque les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Il ne peut donc que s'agir de la mort du corps, de notre enveloppe. Observons maintenant ce que est par essence le péché mortel. Et nous saurons ainsi nous en tenir éloignés, en sorte que, primo, notre chair ne soit pas atteinte par la corruption. Secondo, nous ne perdons pas, que nous n'allons pas perdre la bénédiction d'être enlevés avant la mort. Et tierso, que nous puissions encore, avant de mourir, si le Seigneur devait tarder, achever l'œuvre qui nous a été confiée. Nous croyons qu'un grand nombre d'enfants de Dieu, pour avoir fait preuve de négligence, hélas, dans cette affaire, ont vu leur vie écourtée et ont perdu ainsi leur couronne. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont plus, s'ils avaient pris garde à cet avertissement, serviraient peut-être encore, surtout s'ils avaient que 40 à 50 ans, eh bien, pourraient encore servir le Seigneur à l'heure actuelle. La parole de Dieu ne donne pas de précision sur la nature de ce péché, mais elle nous assure seulement qu'il peut exister. Donc, d'après les textes qui s'y rapportent, nous comprenons que ce péché varie suivant les individus. Voyez-vous, pour quelques-uns, un péché particulier peut être mortel. Pour d'autres, selon les pays, selon les coutumes, ce même péché peut ne pas conduire à la mort et vice-versa. Pourquoi cela? À cause de différences dans la grâce reçue. Tout le monde, suivant où ils vivent, n'ont pas reçu la même grâce, n'ont pas reçu la même lumière et n'ont pas accepté et la position atteinte par les uns ou les autres n'est donc pas tout à fait la même. Bien que la Bible n'identifie nulle part ce péché, nous constatons néanmoins que tout péché qui a la mort pour aboutissement constitue un péché mortel. Voyons cela. Le peuple avait commis un tel péché à Kadès. Notez le livre de Nombres, c'est dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc. Donc, Nombre, chapitre 13, verset 25, et chapitre 14, verset 32. Bien qu'ils avaient tenté le Seigneur bien des fois auparavant, selon le chapitre 14, verset 22, il leur avait toujours pardonné sans autre. Mais voilà, cette fois, bien qu'il leur pardonna après leur refus d'entrer en Canaan, il fit en sorte que leur corps devait trouver la mort dans le désert. Nombre, chapitre 14, verset 32. Aux eaux de Mériba, aux eaux de Mériba. Là, nous voyons Moïse qui a provoqué, il a été provoqué, on peut bien le dire, il fut provoqué. Et à ce moment-là, il a laissé échapper des paroles imprudentes. Notez psaume 106, verset 33. Ce fut donc là son péché mortel, et il mourut hors du pays de la promesse. Nombre, chapitre 20, verset 24. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons comment Ananias et Saphira ont été punis de mort pour avoir commis ce qui fut pour eux le péché mortel, parce que ils essayèrent de mentir au Saint-Esprit en retenant une partie du produit de la vente de leur terrain. Actes des Apôtres, chapitre 5. Faisons attention à ce que nous promettons au Seigneur, de bien le tenir. Tenir sa promesse, c'est important. Même tenir sa promesse d'un mariage, de fidélité à son épouse, c'est une promesse importante que nous devons tenir. Et vice-versa, bien entendu. Le Corinthien qui vivait avec la femme de son père, il a aussi été très coupable de cette sorte de péché. Obligeons ainsi l'apôtre à prononcer un jugement en prescrivant aux frères de Corinthe de livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair, de son corps, de son enveloppe. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Quelques frères de Corinthe sont morts pour avoir profané le corps et le sang du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 et jusqu'au verset 30. Il ne faut donc pas prendre la Sainte Cène, la Sainte Communion, à la légère. Pour triompher de la mort, nous devons triompher tout d'abord du péché avec ténacité, car l'une dérive de l'autre. Si nous tenons à vivre jusqu'au plein accomplissement de nos jours ou jusqu'au retour du Seigneur, nous devons prendre garde de ne pas pécher. La négligence sur ce point a conduit beaucoup de croyants à une mort prématurée. Le péché mortel n'est pas une transgression de nature à provoquer un effroi particulier, puisque elle n'est nulle part spécifiée. L'impudicité dont les Corinthiens s'étaient rendus coupables, cette impudicité peut être considérée comme mortelle, Mais il en est de même des paroles inconsidérées. Surveillons un peu mieux nos paroles. Je parle aussi pour moi. Elles peuvent être mortelles. Mais il en est de même des paroles inconsidérées, comme nous venons de le voir pour Moïse. Remarquez en effet comment l'Écriture sainte présente son caractère. Il est dit « Or Moïse était un homme fort patient, plus patient qu'un autre homme sur toute la surface de la terre. » Nombre, chapitre 12, verset 3, selon la version allemande. C'est pour cela qu'aucun péché ne pouvait être toléré dans la vie de cet homme. Oui, chers amis, nous vivons au temps de la grâce. Dieu est plein de grâce. Que nos cœurs en soient réconfortés. Ne laissez pas l'ennemi vous accuser, insinuant que vous avez commis le péché mortel. Non, non, non. Et que, en conséquence, vous devez absolument mourir. N'écoutez pas l'ennemi. Bien que la Sainte Bible ne nous encourage pas à prier pour ceux qui ont vraiment commis le péché mortel, Dieu nous pardonnera si je me juge moi-même et que nous nous repentons sincèrement. De nombreux croyants pensent que l'homme mentionné dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 et 7, est précisément celui qui avait vécu avec la femme de son père. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 versets 30 à 32, il nous est rappelé que même si nous avons commis le péché mortel, nous pouvons échapper à la mort si nous nous jugeons nous-mêmes sincèrement. N'oublions jamais de demander pardon, de nous juger sévèrement et demander pardon au Seigneur. Notez l'enseignement que nous donnent les proverbes, le livre des proverbes. Il est dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Proverbe chapitre 3, versets 1 et 2. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Chapitre 3, verset 8. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Chapitre 4, verset 4. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Chapitre 4, verset 10 des Proverbes. Et il y en a encore beaucoup, beaucoup, vraiment très nombreux, mais nous ne pouvons pas tous les citer ici, car nous arrivons bientôt au bout de notre étude. Quelles sont les puissances du siècle à venir? Il nous est dit que dans le futur royaume, le Seigneur Jésus sera le soleil de la justice et que la guérison sera sous ses ailes. Malachie. C'est écrit dans Malachie au chapitre 4, verset 2. Et aucun habitant ne dira « Je suis malade ». C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 33, verset 24. À ce moment-là, nous les croyons, nous jouirons de ce que prédit l'Écriture sainte. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ». 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. Pour les chrétiens, la caractéristique de la dispensation du royaume, c'est qu'il n'y aura plus ni faiblesse, ni maladie, ni mort, parce que nos corps auront été rachetés et Satan aura été écrasé sous nos pieds. En effet, voyez-vous, croyons donc tous à la possibilité d'avoir un avant-goût des puissances du siècle à venir. Quand l'apôtre Paul s'est écrié « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Là, il fait allusion au temps présent. Et ce qui le préoccupe, c'est le problème de la mort. Bien qu'il se réfère à la victoire totale sur la mort, qui est encore future, il ne peut pas se résoudre à envisager cette expérience uniquement pour l'avenir. C'est une victoire dans le présent qu'il nous engage à revendiquer par Jésus-Christ. Entre autres principes, on trouve celui-ci dans les voies de Dieu. Ce qu'il se propose de faire pour les hommes, et cela dans un avenir d'éternité. Il commence par en faire une démonstration avancée, et cela sur un plan limité. Ce que tous expérimenteront pendant le millénium. Et ce que tous expérimenteront pendant le millénium doit donc être pour tous les membres de Christ. Elle va être une expérience courante. Même dans les dispensations passées, il y a eu des privilégiés qui ont fait une expérience anticipée des puissances du siècle à venir. Combien plus l'Église d'aujourd'hui ne doit-elle pas faire l'expérience de la victoire de Christ sur la mort? Dieu désire nous voir aujourd'hui forcer les frontières du séjour des morts. Et comment? Et c'est pour l'honneur de son corps que le Seigneur nous appelle maintenant à triompher de la mort. Si nous n'avons pas la victoire sur le dernier ennemi, notre bataille n'est pas encore gagnée. Que chacun d'entre nous cherche donc la pensée du Seigneur concernant notre avenir. Mais si nous sommes au temps de la fin, si le Seigneur ne va plus tarder, et si son retour doit se produire à l'époque actuelle, alors notre foi doit entrer en action pour s'emparer de la sainte parole de Dieu et de croire que en nos personnes, la mort verra sa proie lui échapper et que nous resterons vivants pour rencontrer la face du Seigneur. Nous donc, qui avons cette espérance, en nous, surtout vous qui êtes encore jeunes, purifions-nous comme lui-même est pur. Vivons pour lui de moment en moment et prenons notre part de sa vie de résurrection, pour notre esprit, pour notre âme et notre corps. C'est par la foi que Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Hébreux chapitre 11 verset 5. Croyons donc comme lui, comme Enoch. Croyons que la mort n'est pas absolument nécessaire, car l'enlèvement va être certain, qu'il n'y a plus guère à attendre encore bien longtemps. Je parle pour vous qui avez dans les 50 à 60 ans. Avant son enlèvement, il, Enoch, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et nous, chers auditeurs et auditrices, et nous, quelle excellence que la gloire à venir, quelle perfection dans ce salut que Dieu a préparé pour nous. Que le ciel nous remplisse tellement que la chair perde tout son terrain et que, on peut dire, que toute communication avec son ennemi soit enfin rompue. Que le Seigneur Jésus-Christ satisfasse tellement nos cœurs que nous ne voulions rien ni personne d'autre. Nous ne voulons que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse faire naître cette prière dans l'esprit de quiconque croit, et que tous nous puissions dire « Viens, Seigneur Jésus, viens !» Nous allons maintenant terminer par la prière. Si nous en avons encore le temps, mais je crois que nous arrivons au bout. Priez-vous ce que le Seigneur vous donne dans le cœur de prier. Vous pouvez le faire. Croyons tous ensemble. Amen.